Victor Hugo, c'est un grand écrivain, c'est un grand dessinateur, et on sait moins que c'est aussi un grand décorateur.
Se mêle de la spiritualité, se mêle évidemment de sentiments esthétiques, quelque chose de romantique, enfin quelque chose de multiforme.
Se sent militant de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique.
J'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien les châteaux, les murs et les fresques.
Il y a beaucoup de culture.
Oui, c'est ma première visite, c'était très bien.
Va mon ami, va, la lune se lève.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je pars à la rencontre de ceux qui font l'actualité culturelle. Conservateurs, artistes, mécènes, passionnés et amateurs, ils nous parlent tous de leurs événements, leurs expositions et leurs émotions. À l'heure où les poids lourds de l'art contemporain prospèrent, les petites galeries d'art, elles, souffrent de plus en plus. Entre les deux, les grandes foires d'art contemporain sont pléthores et font tourner les têtes. Dans les salles de vente, même folie de la surenchère, les records tombent désormais tous les mois. Immanquable dans la sphère médiatique, le dernier en date est le tableau Salvator Mundi, ou Le Sauveur du Monde de Léonard de Vinci, parti pour 450 millions de dollars chez Christie's New York, un record mondial. Dans ce marché de l'art contemporain à deux vitesses, comment survivent les galeristes traditionnels? Pour en savoir un peu plus, rencontre avec Stéphane Coréard, regardeur de l'art contemporain depuis de nombreuses années, tour à tour galeriste, collectionneur et curateur. Il est le fondateur d'un nouveau salon, Galeriste, qui se tenait au Carreau du Temple le week-end dernier pour sa deuxième édition. Stéphane Coréard nous explique pourquoi il a fondé ce nouveau salon qui a vocation à mettre en lumière ce qu'il appelle des galeristes artisans.
L'idée de galeriste, c'était en fait, à ma connaissance, la seule manifestation qui est dédiée uniquement à des galeristes artisans. D'abord, de donner une plateforme de visibilité et de rencontre à des galeries à taille humaine. Moi, j'appelle ça échelle humaine. On pourrait parler de galeristes indépendants, de galeristes artisans, finalement, parce qu'on est assez proche de cette démarche du durable, du bio, enfin c'est un peu ça l'idée en fait, c'est du local, de la proximité, c'est-à-dire que vous avez raison, il y a beaucoup de foires, il y a beaucoup de galeries, mais ce qui est nouveau depuis 30 ans dans le monde de l'art, c'est qu'il y a toute une part industrielle qui a émergé, qui est caractérisée par des galeries qui sont entre plusieurs pays, parfois même plusieurs continents, qui revendiquent jusqu'à $1 milliard de chiffre d'affaires, des artistes qui ont 100 assistants, donc toute une échelle industrielle qui est comparable finalement avec les blockbusters du cinéma, Hollywood, etc. Et le problème, c'est que comme c'est nouveau, on n'en a pas tellement pris la mesure, on ne s'est pas adapté comme d'autres arts justement qui sont aussi des industries, comme disait Malraux à propos du cinéma. Là, finalement, c'est le lieu pour ceux qui veulent, à ce moment-là, rencontrer des galeristes artisans. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un galeriste artisan? Finalement, c'est quelqu'un qui travaille à échelle humaine. Et que ça veut dire à échelle humaine? Ça veut dire qu'il est proche à la fois de ses artistes. Donc c'est tout ce versant où on va essayer d'évaluer si il a une ligne artistique, s'il est fidèle à ses artistes dans le temps, s'il introduit en même temps des nouveaux artistes, s'il paye ses artistes par exemple, parce que c'est un critère qui ne rentre que rarement en ligne de compte, mais pourtant pour des gens qui collectionnent l'art contemporain, cette dimension de soutenir les artistes, elle est aussi présente malgré tout. Et puis de l'autre côté, c'est aussi des gens qui sont proches de leur public. Donc est-ce qu'ils sont accessibles au public? Est-ce qu'ils savent parler des artistes? Est-ce qu'ils savent présenter des démarches artistique à quelqu'un qui les connaît pas, etc. Donc en fait c'est ça qu'on essaye d'évaluer. C'est pour ça que j'ai fait un comité de sélection qui est composé quasiment uniquement de collectionneurs, c'est-à-dire les usagers des galeries, les gens qui savent comment les galeristes se comportent avec le public et avec les collectionneurs. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a une démarche qui est un petit peu différente de celle de foire par exemple, où c'est en général d'autres galeries qui jugent leurs confrères par exemple. Et quand on a fait, puisque c'est la deuxième édition, mais quand l'année dernière j'ai réuni pour les premières fois le comité de sélection et qu'on s'est justement dit quelles galeries on voudrait avoir, les collectionneurs du comité ont résumé en une phrase qui résume bien l'esprit, c'est des galeries qu'on recommanderait à nos amis.
vous parlez de collectionneurs. Est-ce que justement, c'est le fait aussi, l'idée de dire qu'il faut réapprendre aujourd'hui aux collectionneurs à fréquenter des galeries, entre guillemets, donc artisans, c'est-à-dire un peu plus petites que les grosses galeries ou les grandes foires, puisqu'on sait aujourd'hui que le réflexe tend peut-être plutôt pour un collectionneur à aller sur une foire, une grosse foire, et pas forcément à aller visiter les galeries,
oui,
en tout
mais
cas
parce
un
que,
peu moins.
Parce que moi, j'étais galeriste, hein, donc j'ai un parcours assez 360 degrés dans l'art, ce qui m'a amené à réfléchir un peu à l'ensemble de l'écosystème. Et je sais que le lieu où les galeries excellent, c'est chez elles. Elles ont une architecture particulière, elles font des projets avec les artistes qu'elles ont le temps de mettre en place dans un lieu qui leur ressemble.
Mais ça, les collectionneurs ont tendance à l'oublier.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est exactement finalement comme de dire, est-ce que si vous mangez un menu d'Alain Ducasse dans une classe affaires de Hong Kong Airlines, est-ce que vous avez vécu l'expérience d'aller manger chez Alain Ducasse? Et Alain Ducasse, encore, c'est un chef qui ne cuisine pas. C'est connu. Mais par exemple, est-ce que... non, mais c'est, il le dit lui-même, hein, je veux dire, il cuisine pas. Et ça fait des années qu'il cuisine plus, mais ça peut être pour autant un grand entrepreneur. Mais je veux dire, moi, par exemple, une fois je voulais emmener ma femme dîner chez Pierre Gagnère, et quelqu'un qui le connaît bien m'a dit, bah là il est pas là, il est en Asie, donc n'y va pas, parce qu'il y a des chefs où on peut y aller, quand ils sont pas là c'est pas grave, parce qu'en fait c'est des chefs un peu corporate, un peu comme des architectes aussi corporate, ou alors des auteurs. Voilà, moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les auteurs et la proximité avec les auteurs. Le fait de, c'est vrai que quand je bois un vin, j'aime bien savoir quel vigneron l'a fait, quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'il fait comme vin, qu'est-ce qu'il fait comme autre vin, quelle est sa philosophie par rapport à la terre, par rapport au vin. Voilà. Et pour moi, c'est exactement pareil avec l'art. Donc, ce qu'on essaye de dire à travers Galeriste, effectivement, c'est aux gens, retournez dans les galeries, c'est dans les galeries que ça se passe. Et la galerie reste, ça j'en suis convaincu, d'abord un commerce de proximité. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est tentant d'être à l'échelle mondiale, parce qu'avec Internet, avec les foires, etc., on peut parler aujourd'hui au monde entier. Mais les collectionneurs, et les amateurs d'ailleurs, ils ont besoin d'être emmenés dans une aventure et dans une histoire, et ça se fait dans le temps. Et finalement, ils le savent bien, parce que quand on leur pose la question, le galeriste, c'est le premier maillon d'une chaîne qui va les amener dans des aventures artistiques. C'est vraiment un relais d'informations précieux. Et c'est ça qu'on essaye de valoriser à Galeriste, qui est organisé un peu comme un speed dating. L'idée, c'est que vous êtes là pour voir avec qui vous avez des affinités. Et ensuite, vous êtes incité à poursuivre cette relation dans le secret de la galerie, d'une certaine manière, comme un speed dating. Si jamais vous avez matché avec quelqu'un, ben après c'est votre affaire et vous allez au restaurant et plus si affinité.
Essayez de tomber amoureux et ensuite de poursuivre l'histoire.
Oui, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup d'analogies entre les histoires d'amour et les histoires d'art. Enfin, moi en tout cas, c'est vrai que je suis collectionneur avant tout, et que je défends toujours l'idée d'une relation intime avec l'art. Un salon comme Galeriste, c'est fait pour qui rencontre des gens qui ne les connaissent pas. Donc la question qui doit se poser, c'est comment je dois me présenter à quelqu'un qui ne me connaît pas. Et à mon avis, la bonne réponse, c'est montrer sincèrement qui on est, et essayer de montrer, c'est le cahier des charges un peu que je leur donne, ce qui les distingue de leurs voisins. L'architecte Dominique Perrault, à qui j'ai demandé de faire la scénographie de Galeriste, m'a surpris, et a surpris les galeristes en proposant une scénographie qui est très très différente de ce qui se pratique effectivement dans les foires, où les foires ont eu tendance en plus récemment à essayer de se transformer en succès d'année de galerie, c'est-à-dire qu'elle vous propose maintenant des vrais murs, des projets gigantesques, des soi-disant installations, des éclairages meilleurs en tout cas que ce qu'il y avait avant, etc. Ce qui fait qu'effectivement, légitimement, les gens pensent qu'ils ont même visité la galerie. En fait, il y a une espèce de confusion qui se crée dans leur esprit. Ici, un galeriste, c'est pas du tout cette confusion qu'on cherche. Au contraire, les gens savent bien qu'ils sont pas dans la galerie. Ils sont quelque part dans le cerveau du galeriste. Le modèle, c'était beaucoup plus ce que j'avais dit à Dominique Perrault, c'est beaucoup plus entre le bureau et la réserve visitable. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'antichambre du galeriste, vous êtes dans un lieu personnel. Donc c'est pour ça que tous les galeristes, on leur demande de venir avec leur mobilier. Et finalement, ça va permettre de briser la glace, exactement comme dans un speed dating. Et puis après, peut-être qu'il va se passer une fantastique histoire entre ce collectionneur ou cet amateur et le galeriste. C'est pour ça qu'on résume ça en fait en disant, ici, ce qu'on vous propose à Galeriste, c'est de venir échanger avec les galeristes autour de votre passion commune qu'est l'art. Voilà, c'est essayer de revenir à cette base, que si on est dans ce milieu, c'est parce qu'on est des passionnés, parce qu'à un moment donné on a eu un déclic, et on peut pas vivre sans art, et c'est quand même ce qui nous rapproche et ce qui devrait être la base de nos relations.
Alors justement, créer de l'échange, des rencontres, J'allais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est galeriste, il faut essayer de se réinventer et de se renouveler, parce qu'on sait très bien, comme on vient un petit peu de l'expliquer, qu'il y a un marché de l'art à deux vitesses, et que quand on est sur le second marché, c'est un peu difficile. Est-ce que du coup, le fait de créer des rencontres entre galeries, ça peut aussi créer des réseaux et des systèmes de collaboration
Naturellement.
Au niveau d'exposition entre galeries, et qu'il faudrait qu'on tend vers ça aujourd'hui.
Bien sûr, je pense que de toute façon, cette rencontre autour d'une passion commune, elle vaut d'abord pour les galéristes même eux-mêmes. Et d'ailleurs, je dirais que la scénographie de Dominique Perrault incite aussi à ça, parce qu'elle est sur la transparence. Et finalement, chaque module d'un galeriste a son pendant, qui est le dos du module d'un autre. Et donc, ils sont obligés de se parler, et ils sont obligés de cohabiter, parce que quand on est là, il y a l'œuvre qui est accrochée de l'autre côté, qu'on voit par transparence, où on voit son dos, etc. Et effectivement, ça les amène à être dans une relation peut-être beaucoup plus directe, beaucoup plus franche. Mais je dirais que...
Pour être plus fort, par exemple, face aux foires et aux très très grosses galeries, est-ce que l'idée, ce serait aujourd'hui d'avoir se regrouper, se solidariser
Comme l'a dit un jour Daniel Gervis, qui est un vieux marchand français qui a participé à Art Basel, c'est quelqu'un d'assez, qui a vraiment eu beaucoup d'idées pour regrouper les gens. Et il m'a dit, mais aujourd'hui, bon, le danger c'est pour eux, lui c'est un marchand de second marché, donc il dit le concurrent c'est plus la vente aux enchères, mais il dit finalement, il a créé un réseau des grands marchands dans le monde, et il dit, mais si on met ensemble les 10 plus grands marchands du monde, ils sont plus puissants que toutes les maisons de vente réunies. Et donc c'est vrai que, là vous avez raison, c'est que ce marché des galeries, des marchands, s'est fait court-circuiter à l'heure d'Internet par la visibilité mondiale et la soi-disant transparence qu'ont donné par exemple les prix de vente aux enchères. Et c'est qui sont les seuls publics, c'est-à-dire que les galeries ne communiquent pas à la fin d'une expo sur on a vendu 80% des œuvres à tel prix, etc. Donc finalement, comme il y a un seul barème qui est disponible, c'est celui des ventes aux enchères, et bien les galeries effectivement, qui en plus sont plus fragmentées comme ça, chacun dans leur coin, effectivement ont peut-être plus de mal à exister à cette échelle. Donc évidemment, je pense que les collaborations entre galeries sont aussi très importantes, et d'ailleurs y compris les même pour les achats, on a toujours dit, par moi je me rappelle quand en 90 avant la dernière grande crise, les marchands disaient toujours nos meilleurs clients c'est les autres marchands, parce que finalement justement c'est aussi des collectionneurs, c'est aussi des passionnés, c'est aussi ça qui fait tout circuler.
Est-ce que vous avez l'espoir en tant que regardeur de l'art contemporain que justement le fonctionnement du marché de l'art contemporain se modifie dans les années à venir pour se rééquilibrer? Et que effectivement, des salons comme galeristes peuvent permettre ça.
Ah ben bien sûr, c'est toute la philosophie que j'essaie de mettre en place avec galeristes ou avec d'autres projets que j'ai pu faire dans le passé. C'est vrai qu'un artiste, si vous voulez, comme Damien Hirst ou Jeff Koons par exemple, qui fait de la peinture hyper réaliste entre guillemets, il est incapable de le faire lui-même. En fait, c'est beaucoup plus un fonctionnement capitaliste, c'est-à-dire qu'il embauche des gens qui, à mon avis, qui payent pas du tout à la mesure de la richesse qu'ils produisent, et pour faire des choses que lui ne sait pas faire. Et ça, c'est tellement nouveau, parce qu'on était après des siècles où ça n'avait pas existé, on a été complètement pris de court, et je pense qu'on a beaucoup de mal à s'habituer à cette nouvelle donne, et simplement déjà à la formuler. Donc déjà le fait de dire qu'il y a un marché à deux vitesses, mais qu'il peut y avoir des gens qui sont respectables, voire même admirables, dans les deux marchés.
Deux marchés peuvent coexister. En fait.
Mais bien sûr, et ils doivent coexister, et même ils doivent se renforcer. Moi, je me rappelle très bien mon gourou en matière de vin, qui est un critique, qui s'appelle Michel Bétane.
On parle beaucoup de vin.
Oui, parce que j'aime bien parfois prendre des analogies, ça permet parfois de mieux comprendre. Et lui, il dit toujours justement, on a besoin en France d'avoir du vin industriel bon marché, pour gagner des marchés, faire vivre nos agriculteurs, nos viticulteurs, etc. Donc on doit pouvoir faire des millions de bouteilles à 3 ou 5 euros qui sont bons, comme savent le faire justement peut-être les Chiliens, les Italiens, peut-être aujourd'hui mieux que nous. Et on doit aussi savoir faire la Romani Conti, savoir faire des très grands vins qui vont avoir une aura mondiale et qui sont des vins sur mesure, etc. Et je pense que dans l'art, ça peut être exactement pareil. Il faudrait qu'on ait une industrie qui soit forte et qui irrigue aussi, comme c'est le cas dans le cinéma. Par exemple, si vous avez un film qui carte quand les Bronzés 3 font 12 millions d'entrées, ça finance derrière tout le cinéma d'art et d'essai qui profite de cette manne parce qu'il y a une taxe parafiscale, etc. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que quand vous avez Damien Hirst ou Jeff Koons ou je sais pas qui vend 100 millions, ça ne profite en rien au reste de l'écosystème. Donc les petits, entre guillemets, ils crèvent la bouche ouverte. Et si on ne se rend pas compte de ça, donc je reviens vraiment au cœur de votre question, moi ce que j'essaie de faire avec Galeries, c'est déjà de faire la pédagogie autour de cette réalité, et que les collectionneurs, parce que c'est eux quand même qui font carburer le système, hein, c'est l'argent des collectionneurs qui fait vivre tout le monde dans ce système, mais que les collectionneurs se rendent compte de leur responsabilité et qu'on est responsable du monde de l'art qu'on finance. Voilà. Donc il faut savoir, et à un moment donné, parfois dans la vie, il faut être militant. Et heureusement, à Galeriste, on a des collectionneurs militants qui, par goût et puis par conviction, viennent défendre, acheter dans des galeries à taille humaine parce qu'ils savent que c'est indispensable à la survie d'un certain écosystème qui leur plaît, parce qu'ils aiment aller dans les galeries, ils aiment rencontrer. Ils ont eu des aventures passionnelles avec des galeries. On dit toujours qu'il n'y a pas de grands collectionneurs sans grands marchands. Donc ils savent qu'il faut financer tout ce terreau, que c'est aussi ces galeristes-là qui font le travail de défricheur et de découverte pour des nouveaux artistes, etc. Donc à un moment donné, il faut quand même se prendre par la main et se dire, moi, si je veux que ça perdure, là, il faut que je sorte mon carnet de chèques quand j'en ai les moyens. Et c'est pour ça que l'année dernière, j'avais mis en place un comité stratégique qui m'a accompagné dans la pérennisation de ce projet, en fait, et sa définition stratégique, etc., qui était composé de grands patrons, donc des gens qui ont une compétence en termes de business, par exemple Antoine Frérot, le PDG de Veolia, ou Pierre-Alexis Dumas, le directeur artistique d'Hermès, et qui sont des gens qui, à titre personnel, sont des collectionneurs militants, sont des gens qui achètent dans des galeries indépendantes, artisanales, etc., alors que par leur notoriété, par leurs moyens, par leur visibilité, ils sont certainement courtisés par toutes ces grandes enseignes, si vous voulez, internationales, qui font très bien leur boulot d'industriel, c'est-à-dire qu'ils vont dégoter des parts de marché. Mais eux, ils savent, moi c'est ce qu'on m'a dit Antoine Frérot, il m'a dit, moi toute la semaine je vois des hommes d'affaires et des banquiers, quand je vais dans une galerie, c'est pas pour rencontrer un énième banquier, c'est pour rencontrer quelqu'un qui me parle d'art, qui me parle de philosophie, qui a l'œil qui brille et avec qui je peux décompresser et parler d'autres choses, parler de ma passion, quoi. Voilà.
Ah, merci beaucoup Stéphane Coher, c'était très intéressant, je pourrais vous écouter encore des heures, surtout que vous avez une vision qui fait du bien, je trouve, parce que c'est vrai que voilà, vous avez vraiment un point de vue que je trouve intéressant. Et par contre, juste peut-être pour finir, un exemple, est-ce que vous auriez un exemple d'une initiative d'un galeriste artisan, voilà, qui est un peu novatrice, qu'on n'a pas trop vu avant, qui se démarque?
Ah ben heureusement, justement, il y a beaucoup de galeries qui, ces derniers temps, se sont regroupées pour faire des foires, des week-ends. Par exemple, il y a une initiative que j'aime beaucoup et qui résume assez bien ça, c'est des galeries parisiennes, dont Polaris, Anne Barreau, Semios, etc., qui ont créé un concept qui s'appelle un week-end à la campagne. Et en fait, ils se délocalisent une fois par an dans un endroit où justement il y a aussi un art de vivre. Donc ils l'ont fait à Saint-Émilion, ils l'ont fait à Chassé-de-Montrachet, etc. Et donc ils invitent leurs collectionneurs à venir passer le week-end. Et puis il y a des petites expos dans des boutiques vides, chez des particuliers, etc. Et c'est une espèce de week-end d'art déconnecté du temps. Et on peut justement prendre le temps de se découvrir, de parler. Il y a les artistes qui sont là, les galeristes, on est vraiment entre... Voilà, et moi, quand j'ai participé à un, j'ai rencontré des nouveaux collectionneurs que je ne connaissais pas, avec qui je me suis très bien entendu. Voilà, et ils cherchent aussi un... C'est pour ça que ça résume bien un peu toutes ces problématiques, toutes ces discussions qu'on a. C'est-à-dire qu'ils cherchent à approfondir, en fait, des relations, à les ancrer, à les enraciner, et à retrouver cette convivialité, cet échange autour d'une passion et de ne pas être dans cette course, dans cette urgence, dans cette consommation, mais vraiment être dans une communion autour d'une passion.
C'était Stéphane Coréard, fondateur du salon Galeriste. Rencontre donc sur le salon avec ce regardeur de l'art contemporain, curateur, collectionneur et amateur d'art. Merci beaucoup d'avoir écouté Art Interview sur Art District. C'était Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec un acteur du monde culturel. Très bonne journée sur Art District.